Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre vos questions auxquelles je répondrai sur votre projet, sur votre business, sur l'écosystème, sur la French Tech, sur tout ce qui vous intéresse au niveau professionnel. Je suis là pour y répondre. Et cette semaine, Stéphanie...
Oui, on commence avec la question de Sylvia. Comment trouver son ou ses cofondateurs ?
Alors déjà, on peut les trouver partout. Et donc, il faut garder un œil ouvert en permanence hein, et presque avoir un réflexe et se dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous donne l'impression d'être très intelligent, eh bien, il faut avoir envie de le recruter. Alors, il faut qu'il soit complémentaire après aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, évidemment, le fait de recruter des gens très pertinents, très intelligents. Il faut aller trouver des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et ça, c'est pas forcément naturel, parce que des fois, on est plus attiré par des gens avec qui on a des sujets exactement similaires, communs, dont on peut débattre plus facilement parce qu'on a des compétences similaires. Mais en fait, là, il faut vraiment aussi aller chercher des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire du tout. Il faut justement être très attiré par les gens qui ont des compétences complémentaires des nôtres. Et pour les trouver, donc ça peut être dans des cercles informels. Moi, je me souviens que j'ai rencontré Francis Nappé, mon cofondateur sur Blablacar. Je l'ai rencontré autour d'une soirée pizza chez mon voisin. Hein, donc parce que très souvent, on me demande est-ce qu'il y a une méthode pour trouver son ou ses cofondateurs. Non. Bon, voilà, Francis, j'ai trouvé autour d'une soirée chez mon voisin. Nicolas Brusson, donc mon autre cofondateur, eh bien, on était ensemble à l'école. Damien Grulier, avec qui j'ai commencé aussi au tout début, c'était pareil, c'était un camarade d'école. Donc il y a après j'ai eu un autre collègue aussi, Nicolas Deroche, qui nous a rejoint, un ancien collègue. Donc c'est un petit peu toutes les sphères qu'on peut fréquenter, donc dans la vie personnelle, au travail, dans nos études. À un club de sport, pourquoi pas. Enfin voilà, faut avoir l'œil ouvert et recruter les gens les plus intelligents qu'on croise.
On continue avec la question d'Antonio. Quelles sont les conditions demandées par les investisseurs en contrepartie des sommes versées ?
Alors, la contrepartie directe, quand un investisseur met de l'argent dans une société, évidemment, c'est qu'il espère que plus tard, il en récupérera plus. Donc, il met 100, puis il veut récupérer plus que 100. Elle va vouloir récupérer 200, 500, 1000, peut-être 10 000 ou 100 000 si c'est vraiment l'investissement du siècle. Donc déjà, ça, c'est quand même une attente de la part des investisseurs. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même la beauté du schéma aussi, c'est qu'il est également prêt à perdre les 100. Donc c'est le risque, l'histoire du risk-reward, hein, c'est-à-dire la récompense pour le risque pris. Mais les investisseurs sont prêts à tout perdre. Mais ils sont aussi prêts, évidemment. Enfin, ils s'attendent, ils espèrent, comme nous, de gagner. Donc, c'est important d'aligner tout le monde. Après, il y a des petits principes quand on a reçu de l'argent qu'il faut appliquer. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir apprendre à dépenser de l'argent. Donc, il faut commencer petit à petit. C'est un principe de prudence. Ensuite, il y a un principe de petit à petit. Ça veut dire qu'on va essayer quelque chose, peut-être avec en déboursant au début 500 ou 1000 euros ou 2000 euros, mais pas tout de suite 10 000 ou 15 000 ou 50 000 si on a levé pas mal d'argent. Et donc on va essayer voir si ça marche, et ensuite si ça marche, on va l'améliorer et on va pouvoir faire des opérations un peu plus grandes. Ensuite, il y a un principe de redevabilité, c'est-à-dire que je pense que c'est important de se dire qu'effectivement on doit rendre l'argent un jour, notamment aux investisseurs. Et après, il y a un principe aussi assez simple de séparation des budgets, c'est-à-dire que l'argent qu'on a levé, on peut l'avoir sur un compte, et l'argent courant des dépenses de tous les jours, on peut l'avoir sur un autre compte. Ça, c'est assez pratique parce que ça permet de véritablement voir que combien il reste d'argent par rapport à ce qu'on a levé. Et puis à chaque fois qu'on a besoin d'un peu plus d'argent pour faire tourner justement l'entreprise au jour le jour, on va faire un transfert d'argent, mais on va le voir. Ouais. Puis on va voir que l'argent qu'on a levé diminue. Mais et sur le compte courant, on est en gestion justement plus serrée au jour le jour, et on n'a pas une grosse somme qui diminue petit à petit. Ça, c'est sur le compte plutôt de la levée. Alors après, évidemment, généralement, en contrepartie de l'argent levé, les investisseurs demandent à avoir une place au conseil d'administration pour justement être plus proche de la gestion quotidienne de l'entreprise. Ça, c'est parfaitement normal. Enfin, ça dépend des montants, puis ça dépend du nombre d'investisseurs qui veulent être au board. Il faut faire attention à pas avoir un conseil d'administration trop grand, parce que sinon, on a de l'inertie, puis on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions. Donc, faut avoir un conseil d'administration un peu athlétique et avec juste le bon nombre de personnes, et pas trop généralement.
Voilà pour les conseils de Fred.